9 mars 1963. Le disciple reprend la précédente conversation où Mère disait que Sri Aurobindo avait fait quantité de miracles dans le mental, mais qu'il s'était toujours refusé aux autres miracles, vitaux ou matériels.
J'ai envie de poser une question, mais enfin...
Oui.
J'ai pas très bien compris ce que tu entends par des miracles dans le mental. Qu'est-ce que c'est que ces miracles? Sri Aurobindo faisait des miracles dans le mental.
C'est quand il introduisait dans la conscience mentale la force supramentale. Il l'introduisait, n'est-ce pas, dans la conscience mentale qui régit tous les mouvements matériels. Une formation ou une puissance ou une force supramentale qui immédiatement change l'organisation. Et ça, ça produit des effets immédiats et en apparence illogiques. Parce que ça ne suit pas le cours des mouvements selon la logique mentale. Il disait lui-même, n'est-ce pas, c'est quand il était en possession qu'il pouvait se servir volontairement de la force de la puissance supramentale et qu'il la plaçait à un certain endroit avec un but défini. Ça, c'était... Irrévocable, inévitable, n'est-ce pas, l'effet était absolu. Et alors ça, on peut l'appeler un miracle.
Oui, la force supramentale qu'il mettait dans le mental d'une personne était douée...
Oui, n'est-ce pas, mais que quelqu'un, par exemple, n'est-ce pas, avait une... Mais même avec une maladie, n'est-ce pas? Même avec une douleur ou quelque chose. Et quand il avait été en possession de cette puissance mentale, supramentale, il y avait des moments où il disait que c'était tout à fait sous son contrôle. C'est-à-dire qu'il en faisait ce qu'il voulait, il le mettait où il le voulait. Alors il mettait cette volonté, mais dans un désordre quelconque, qu'il soit physique ou vital ou mental naturellement, il mettait cette force d'harmonie supérieure, d'ordre supérieur, supramental, le placer là et ça agissait immédiatement. Et c'était un ordre. Ça crée un ordre, une harmonie supérieure à l'harmonie naturelle. C'est-à-dire que si c'était une guérison, la guérison était plus parfaite et plus complète qu'une guérison qui aurait pu être obtenue par les moyens ordinaire, physique et mental. Il y en a eu des quantités. Mais les gens sont si aveugles, n'est-ce pas, et si encroutés dans leur conscience ordinaire, qu'ils donnent toujours des explications. Ils peuvent toujours donner une explication. C'est seulement ceux qui ont la foi et l'aspiration et quelque chose de très pur en eux, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'ils veulent vraiment savoir. Alors là, ils s'en apercevaient. C'est-à-dire que il y a une différence entre le miracle qui se produit à travers le mental et dans le mental, ou le miracle qui se produit directement dans le physique et dans le mental. Par exemple, qui font des miracles, des lévitations, des déplacements d'objets, des lumières, des gens qui... C'est un domaine qui... C'est vrai qu'il n'est pas très vivant pour moi, il m'intéresse pas beaucoup. Mais... Les guérisons, c'était comme ça, c'était quand c'était là, il disait que même sans un effort, ça, il n'avait que ça à faire, mettre cette puissance d'ordre, d'harmonie supramentale, instantanément, ça. Mais tiens, n'est-ce pas, ça c'est, ce n'est pas du tout à mettre ni à raconter. C'est tout simplement une chose qui, je ne sais pas si je te l'ai dit, qui m'est arrivée quand j'avais 9-10 ans. Que je courais avec des amis dans le... Je lui racontais quelque part peut-être, dans la forêt de Fontainebleau. La forêt est assez épaisse pour qu'on ne voit pas très loin devant. On courait et dans la rapidité de ma course, je n'ai pas vu que j'arrivais juste au bord de la route. Et, n'est-ce pas, là où on était, ça surplombait la route d'à peu près 3 mètres. Plus haut qu'une maison. Là. Et la route était empirée. Fraîchement empirée. Tu connais l'histoire?
Non.
La route était fraîchement empirée. Et on courait comme ça. C'était moi qui courais en avant, n'est-ce pas? Les autres étaient derrière. Et alors, l'élan était si fort que je n'ai pas pu m'arrêter. Pouf, je suis parti dans l'air. Et alors là, comment j'avais 10 ans, 11 ans, peut-être au plus, aucune pensée de miraculeux, ni de merveilleux, ni rien, rien. Simplement, j'étais projeté dans l'air. Et j'ai senti que quelque chose me supportait. Quelque chose me supportait. Et j'ai été littéralement déposé par terre sur les pieds. Je me suis relevé, n'est-ce pas, ça m'a paru tout à fait naturel, tu comprends? Pas une écorchure, pas une poussière, rien, absolument intact. je suis tombé très, très lentement. Alors tout le monde s'est précipité, n'est-ce pas, pour voir. C'est resté comme ça. Je me suis souvenu de cette impression. C'était comme quelque chose qui faisait comme ça. Avec cette lenteur-là, je pense. Et alors, il y avait la preuve matérielle, n'est-ce pas? C'était pas une illusion. La route était empirée, tu sais, les silex de France. Pas une écorchure, rien. Pas une poussière. Et ça faisait partie, n'est-ce pas? L'âme était très vivante à ce moment-là. Elle résistait de toute sa force à l'intrusion, n'est-ce pas, de la logique matérielle du monde. Ça me paraissait tout à fait naturel. Et simplement, je me disais, non, il ne peut pas m'arriver d'accident. Mais projeté comme ça, c'est ça, je me suis souvenu très longtemps la sensation que j'avais. Quelque chose qui faisait comme ça. Quand j'ai travaillé avec Théon, je me suis souvenu et j'ai vu que c'était une entité. C'était, n'est-ce pas, ce que les gens d'Europe appellent des anges. N'est-ce pas, comment ils appellent ça? Ange gardien. C'était une entité, parce qu'il y avait Théon avait parlé de certains mondes, de mondes intellectuels supérieurs, je ne me souviens plus, il avait donné tous les noms, qu'il y a des êtres là qui appartiennent à ce monde et qui ont des ailes. De leur libre choix, n'est-ce pas, monsieur, c'est joli. Et Madame Théon m'avait toujours vu deux de ces êtres avec moi. Et moi, elle m'a connu plus de 10 ans après. Et pareil qu'ils étaient toujours avec moi. Alors moi, j'ai regardé, je les ai vus, en effet. Il y en avait même un qui avait essayé de faire des dessins, on m'a demandé de me prêter ma main pour faire des dessins avec ma main. N'est-ce pas? J'ai prêté ma main, puis j'ai vu le dessin, il a fait un dessin, mais je lui ai dit, mais les miens que je fais, sans toi, sont bien mieux. Alors, de... je n'ai jamais été intéressé par ce genre de curiosité-là, n'est-ce pas? Et ça me paraissait, ça, là, n'est-ce pas? C'est ça que les gens appellent un miracle. Il y avait une autre chose, mais c'était moins frappant, n'est-ce pas? Mais une fois, qui dans une chambre qui était aussi grande, longue que cette chambre, et plus large que ça, qui était le salon dans la maison de ma femme, et il y avait des petits camarades, des amis qui étaient venus, n'est-ce pas, on s'amusait. Et alors moi, je leur ai dit, n'est-ce pas, je leur ai dit, je vais vous montrer quelque chose, comment on doit danser. Et alors je me suis mis en angle pour avoir le chemin le plus long, d'un coin à l'autre. Et je leur ai dit, un seul pas au milieu. Et je fais, pris mon élan, même pas eu l'impression de sauter comme si je dansais, n'est-ce pas, comme quand on fait des pointes. Alors là, toucher avec la pointe, rejaillir et arriver à l'autre coin. On peut pas faire ça tout seul. Même c'était une longueur qui dépassait parce que j'ai demandé après ici, quand on a fait des exercices physiques, j'ai demandé quel était le saut le plus long. c'était plus long que... Et là, n'est-ce pas, ils prennent leur élan. Ils courent et ils sautent. Et ça, je n'ai pas couru, j'étais debout au coin. Et hop, comme ça, je me suis dit, hop, à moi-même, sans faire de bruit. Et puis alors, hop, je suis tombé sur la pointe du pied, réjailli à la minute. J'étais porté. C'était tout à fait évident. Tout ça, ça se passait avant 13-14 ans. Entre 8 et 13-14 ans. Beaucoup de choses. Comme ça. Et qui me paraissait tout à fait naturel. Je n'avais jamais l'impression que je faisais quelque chose de miraculeux. Tout à fait. C'était le sentiment de toujours d'être porté. Quelque chose qui soutenait et c'était quelque chose qui portait. Et alors maintenant, n'est-ce pas, si je rapproche les mouvements, ou n'est-ce pas, la sensation, c'est la même chose que ce grand mouvement des... C'est la même chose. À partir de 13-14 ans, c'est devenu plus difficile. Mais avant, c'était très bien. C'est la même chose, je sais, quand Sir Bindo m'a dit, quand j'avais fait cette formation de l'Overmind, on était en route pour faire des miracles. Il m'a dit ça un jour, que j'avais amené dans Amrita une force de Brahma créateur. C'est le verbe créateur, le mot qui s'exécute automatiquement. Et alors, je ne sais pas ce qui s'était passé, je ne me souviens plus, qui m'avait fait voir que ça marchait très bien. Et alors, en moi est venue comme ça une espèce de... Comment dire, comme une idée où ça veut dire, tiens, si on essayait ce pouvoir avec les moustiques n'existent plus, qu'est-ce qui se passe? On était très embêtés avec les moustiques. Et alors, avant de le faire, la séance était finie, là. Ça aurait été pour la fois suivante. J'ai dit à Sir Bingo, je lui ai dit ça, si on essayait ça, n'est-ce pas, avec cette force-là qui répond, si on disait les moustiques n'existent plus, on pourrait au moins les supprimer dans un certain champ, un champ d'action, un champ de rayonnement. Alors il m'a regardé. Puis il n'a rien dit. Et puis c'est un moment après qu'il s'est tourné vers moi et qu'il m'a dit « You are in full overmind. That is not the truth that we want to manifest. » Je t'ai raconté. C'était ça l'occasion. Eh bien, des choses comme ça n'auraient plus l'effet. Il m'a dit, mais non, on peut faire des miracles. Les gens seront émerveillés. Mais moi, j'ai trouvé un bien plus joli miracle quand je jouais je ne sais quoi de Beethoven ou de Mozart. Théon avait un piano parce que sa secrétaire anglaise jouait du piano. Alors il avait un piano dans son salon qui était de plein pied avec la moitié de la montagne, n'est-ce pas, presque le haut de la montagne. C'est-à-dire que on montait des escaliers dans la maison, deux étages d'escaliers pour arriver au salon, mais le salon avait des grandes portes qui s'ouvraient de plein pied avec la montagne. C'était très joli. Alors je jouais là, j'allais jouer. L'après-midi, je jouais. Et puis les portes étaient grandes ouvertes. Et un jour, quand j'ai fini de jouer, je me suis tournée pour me lever. J'ai vu un gros crapaud. C'était comme ça, tout pustulant, gros crapaud. Et puis alors, tu sais comme il se gonflait, il se gonflait. Comme s'il était, tu sais, absolument aux anges. Il n'avait jamais eu une chose aussi merveilleuse. Il était tout seul, gros comme ça, tout rond, tout noir, tout pustulant, au milieu de ces grandes portes, ces grandes baies, tout ouvertes sur le soleil et la lumière. Il était au milieu comme ça. Pendant un petit moment, il a continué, puis quand il a vu que la musique était partie, il a tourné, il s'est sauté. Ça, cette admiration d'un crapaud, ça m'a rempli de joie. C'était charmant. C'était le moment, j'avais 11 ans, 12 ans, comme ça. C'était le moment, ma mère avait loué une petite maison chez des gens, pas tout en bordure de la forêt, une partie de la forêt, sans passer par la mine et tout ça. Et alors, je sortais et j'allais m'asseoir toute seule dans la forêt. Et c'est là, c'est à ce moment-là que quand j'allais dans la forêt, quand je t'avais, je m'asseyais puis je rêvais, je sais pas. L'imagination, là. C'est un de ces jours-là. Ouais, ça arrivait souvent. Mais un jour, il y avait des écureuils qui s'étaient venus. Et il y avait plusieurs oiseaux, et puis des biches qui étaient comme ça. C'était très joli. Quand je me suis ouvert les yeux, j'ai vu ça, j'ai trouvé ça charmant. Ils sont partis. Je me suis souvenu de toutes ces choses après, quand j'ai rencontré Théon. Longtemps après. Après 20 ans, n'est-ce pas? C'est-à-dire j'avais plus de 20 ans, il y avait plus de 10 ans après. J'ai rencontré Théon et alors j'ai eu l'explication de ces choses, j'ai compris, alors je me suis souvenu de tout ça, j'ai dit tiens. Parce que quand Madame Théon m'a dit, vous savez, je lui ai raconté toutes les choses de mon enfance et tout ça. Elle m'a dit, oh, mais oui, ça, je sais. vous êtes ça, et c'est marqué sur vous, et tout ça. Alors, j'ai réfléchi à ce qu'elle me disait, je me disais, c'est vrai. J'ai eu toutes ces choses qui étaient des indications très claires. Il y avait certainement des gens dans l'invisible qui s'occupaient de moi. J'étais intéressée. Ce qui était intéressant, c'est que il n'y avait rien de mental. Je ne connaissais pas l'existence de ces choses. Je ne savais pas ce que c'était que la méditation. Je méditais sans avoir la moindre idée de ce que c'était. Je connaissais rien. Ma mère avait gardé ça, n'est-ce pas, tout à fait tabou. Ce sont les sujets qu'on n'aborde pas, qui vous rendent fou. Après, je finirai. Voilà. Bon. Alors, tu sais quand c'est?
Oui, le frère, c'est moi.
En effet.
Alors, je te donnerai le 13, l'aphorisme, ou plutôt. Ah ben, il faut que je te lise. Il faut que je te lise ce que tu veux.
Oui, l'arrangement, oui.
Le 13, alors.
Oui, le 13. Ça suffira.
Ah oui, si tu en veux un autre.
Quel est le suivant?
C'est très intéressant.
Qu'est-ce que c'est?
J'avais envie de te poser une question sur la mort.
Tout ce que je croyais savoir me paraît maintenant une chose tout à fait superficielle. N'est-ce pas, quelque chose qui alors m'a donné l'impression d'une découverte formidable, mais c'est seulement comme ça. Je ne suis pas en possession de la chose, je ne peux pas en parler. Non, il vaudrait peut-être mieux attendre un peu pour ce sujet-là. Il est question de la mort, n'est-ce pas?
Oui. Il est question des dualismes, la vie, la mort, l'erreur, le mensonge, l'erreur, la connaissance, l'amour, la cruauté, etc. On peut très bien ne pas poser de questions sur la mort. Mmh. Enfin, c'était celle qui m'était venue.
Oui. Mais comme je te dis, ça déflorera un sujet qui peut-être dans quelques mois, ou je ne sais pas, quelques mois ou quelques années, peut-être que ça serait, il y aura quelque chose d'intéressant. Tu sais, il y a eu un moment où j'étais comme ça, comme si juste on me mettait en contact avec que j'ai appelé la mort de la mort. C'est ça qui l'irréalité de la mort. Et un point de vue tout à fait matériel. Et c'était une question de cellules et de conscience dans les cellules. Et c'était comme ça, n'est-ce pas, comme quand on a un mot, ça y est, je vais l'attraper, ça y est. À l'état d'impression. Une expérience de quelques secondes, n'est-ce pas, qui donnait l'impression que, c'est ça le problème le plus central était résolu. Faut pas parler de ça. Hein. Quand ce sera comme ça, alors oui, ce sera intéressant. C'est ça. Voilà. Bon, alors peut-être que nous laissons ça pour une autre fois.